Ivan Turgenev, histoire du lieutenant Yergunov. Ce soir-là, le lieutenant Yergunov nous raconta de nouveau son aventure. Il la redisait exactement une fois par mois, et nous l'écoutions chaque fois avec un nouveau plaisir, bien qu'en sachant par cœur presque tous les détails. Ces détails avaient successivement poussé, pour ainsi dire, autour de la tige primitive de l'histoire comme des champignons autour d'un tronc d'arbre coupé. Le caractère de notre narrateur nous était trop connu pour que nous eussions la moindre difficulté à combler ses omissions et ses lacunes. Mais depuis ce temps, le lieutenant est mort et personne ne reste pour raconter son aventure. C'est pourquoi nous nous décidons à la porter à la connaissance de tous. La duchesse arriva dans la jeunesse du lieutenant il y a de cela une quarantaine d'années. Lui-même disait, en parlant de sa propre personne, qu'il était alors un beau garçon, élégant, qu'il avait un de ces visages qu'on appelle en russe sang et lait, des lèvres vermeilles, des cheveux frisés et des yeux de faucon. Nous le croyions sur parole, bien que ne trouvant plus en lui rien de semblable. Le lieutenant nous paraissait un homme d'un extérieur fort ordinaire. Son visage était vulgaire et comme endormi, sa taille gauche est mal prise, mais il ne faut oublier que nulle beauté ne résiste au temps. Les restes de l'élégance étaient mieux conservés chez le lieutenant. Il portait encore, dans sa vieillesse, des pantalons très étroits avec des sous-pieds. Il sanglait sa taille épaisse, frisait le toupet et se teignait les moustaches avec une certaine drogue persane qui leur donnait des reflets rouges ou verts plutôt que noirs. À tout prendre, le lieutenant était un gentilhomme très estimable, bien qu'en jouant au whist, il aimât à glisser dans le jeu du voisin son petit œil gris. Mais il faisait cela moins par amour du gain que par esprit d'économie, car il n'aimait pas à perdre inutilement son argent. C'est assez parlé du lieutenant, venons à son histoire. C'était dans la ville encore toute neuve alors de Nikolaïev. On était au printemps. Monsieur Yergunov, qui avait le grade de lieutenant dans la flotte, venait d'y être envoyé pour remplir une mission du gouvernement. On lui avait confié, comme à un officier solide et circonspect, la direction de certaines constructions maritimes. On lui remettait fréquemment des sommes assez considérables que, pour plus de sûreté, il portait constamment dans une ceinture de cuir bouclée autour de son corps. Le lieutenant Yergunov se distinguait en effet, malgré son jeune âge, par une grande prudence et une grande régularité de conduite. Il évitait avec soin toute action inconvenante. Il ne touchait point aux cartes à cette époque, ne buvait pas de vin et fuyait même toute société. De sorte que, parmi ses camarades, les bons sujets l'appelaient la demoiselle, tandis que les tapageurs lui donnaient le sobriquet de bonnet de nuit. Le lieutenant n'avait qu'une seule faiblesse. Son cœur était trop sensible au charme du beau sexe. Mais de ce côté même, il savait résister aux élans de la passion et se gardait bien de ce qu'il eût appelé déroger. Il se levait, se couchait de bonne heure, remplissait ponctuellement ses devoirs, et n'avait d'autre distraction qu'une longue promenade du soir dans les quartiers éloignés de Nikolaïev. Il ne lisait jamais de livres, craignant l'afflux du sang au cerveau. Et même il était obligé, chaque printemps, de combattre la pléthore pour certaines décoctions. Endossant son uniforme, après s'être bien soigneusement brossé lui-même, notre lieutenant se dirigeait chaque soir vers les jardins fruitiers des faubourgs, dont il s'y mettait à pas compter les longues clôtures en bois. Il s'arrêtait souvent, admirait la belle nature, cueillait une fleur en guise de souvenir, et ressentait une certaine satisfaction. Mais il éprouvait le plaisir véritable que lorsqu'il rencontrait un petit Cupidon, c'est-à-dire quelque jolie bourgeoise, qui, portant sur les épaules la mante qu'on appelle le chaufferet de l'âme, sur la tête un mouchoir bigarré et tenant un léger paquet sous son bras nu, se hâtait de rentrer à la maison. Étant, comme il le disait lui-même, d'une complexion sensible, mais modeste, le lieutenant n'adressait jamais la parole au petit Cupidon. Toutefois, il lui souriait avec affabilité et le suivait longtemps d'un regard caressant. Puis il poussait un profond soupir, retournait dans sa chambre avec la même démarche solennelle, s'asseyait devant la fenêtre et se livrait à ses réflexions pendant une demi-heure environ, en fumant avec précaution dans une grande pipe d'écume du tabac horriblement fort dont on lui avait fait cadeau un officier de police allemand, son parrain. Ainsi se passaient les jours, sans tristesse et sans gaieté. Il arriva que, retournant à la maison vers la tombée du jour par une ruelle déserte, le lieutenant entendit tout à coup derrière lui des pas précipités et des mots confus entrecoupés de sanglots. Il se retourna et aperçut une jeune fille d'une vingtaine d'années dont le visage, fort agréable, était inondé de larmes. Un malheur aussi grand qu'inattendu semblait l'avoir frappée. Elle courait, elle trébuchait, elle se parlait à elle-même, elle levait les bras en gémissant. Ses blonds cheveux s'étaient dénoués et son fichu, dans ce temps-là on ne connaissait ni mantille ni burnous, avait glissé de ses épaules et ne tenait plus que par une épingle. La jeune fille était habillée comme une demoiselle, non comme une simple bourgeoise. Yelgunov se rangea de côté. Un sentiment de compassion vainquit en lui la crainte constante de déroger. Lorsqu'elle fut arrivée près de lui, il porta poliment la main à la visière de son shako et lui demanda la cause de sa douleur. En ma qualité de militaire, lui dit-il en portant la main à sa courte épée de marine, puis-je vous venir en aide? La jeune fille s'arrêta. Et dans le premier moment ne parut pas comprendre l'offre du lieutenant. Mais aussitôt, et comme enchantée de pouvoir ouvrir son cœur, elle se mit à parler très vite et en assez mauvais russe. De grâce, monsieur l'officier, commença-t-elle, et sur le champ, ses larmes jaillirent de nouveau, coulant goutte à goutte sur ses joues rondes et fraîches. C'est affreux! C'est horrible, Dieu sait ce que c'est. On nous a dévalisés. De grâce, la cuisinière a tout, tout emporté, la théière, la cassette, les robes. Oui, même les robes et les bas et le linge. Oui, et le ridicule de ma tante. Il y avait là, dans un étui, un billet de 25 roubles et deux cuillères tremplaquées, et encore une pelisse, et tout, tout. Je dis cela à monsieur l'officier de police, et monsieur l'officier me répond: Allez-vous-en, je ne vous crois pas, je ne veux pas vous entendre, vous êtes de la même bande. Je lui dis: Mais de grâce, une pelisse. Et lui de nouveau: Je ne veux pas vous entendre, hors d'ici. Et il frappe du pied. Quelle insulte, monsieur l'officier, hors d'ici. Mais où veut-il que j'aille? La jeune fille éclata de rechef en sanglots. Et tout à fait éperdue, elle appuya son visage contre le bras du lieutenant. Éperdue à son retour, court, Yaoulof, sans bouger, se bornait à dire: Allons, finissez! Et ne pouvait quitter du regard le cou palpitant de la jeune fille éplorée. Permettez, mademoiselle, je vais vous reconduire, dit-il enfin, en touchant légèrement du doigt son épaule. Ici, dans la rue, vous le voyez, c'est impossible. Vous m'expliquerez votre chagrin. Et certainement, en vrai militaire, je mettrai tous mes soins. La jeune fille alors releva la tête et parut pour la première fois se rendre compte de ce qu'était le jeune homme qui la tenait, on peut le dire, dans ses bras. Elle rougit, détourna la tête, et tout en continuant à sangloter, elle s'éloigna de quelques pas. Le lieutenant réitéra son offre. La jeune fille lui jeta un regard en dessous, à travers les longs cheveux blonds mouillés de larmes qui lui tombaient sur les yeux. À cet endroit du récit, Yagounov ne manquait jamais de nous dire que ce regard l'avait percé comme avec une haleine, et même une fois il essaya de reproduire ce regard. Puis, posant sa main sur le bras que lui offrait le galant, lieutenant, ils s'éloignèrent ensemble du côté qui menait, disait-elle, à sa demeure. Yergunov avait eu dans sa vie peu d'occasion de hanter les femmes, et partant ne savait pas trop par où commencer l'entretien. Mais sa compagne le tira bientôt d'embarras. Elle se mit à bavarder avec volubilité, tout en essuyant du revers de sa main les larmes qui venaient sans cesse mouiller ses paupières. Au bout de quelques instants, le lieutenant savait qu'elle se nommait Émilie Karlovna, qu'elle était native de Riga, qu'elle était venue à Nikolaïev en visite chez sa tante, qui était aussi native de Riga, que son père, à elle, avait été militaire, qu'il était mort de la poitrine, que sa tante avait pris une cuisinière russe, très bonne cuisinière et pas chère, mais sans passeport, et que cette cuisinière, le jour même, leur avait tout volé et s'était enfui, on ne sait où, et qu'il avait fallu aller à la police. Ici, le souvenir de l'insulte reçue lui revint à la mémoire et de nouveau éclatèrent les sanglots. Le lieutenant fut encore une fois embarrassé pour trouver à dire quelque chose de consolant. Mais la jeune fille, chez qui, paraît-il, les impressions venaient s'en aller avec la même rapidité, s'interrompit tout à coup pour dire d'une voix calme, en étendant la main, « Voici notre maison. » Cette maison était une espèce de cabane à demi enfoncée dans la terre, avec quatre petites croisées donnant sur la rue. Derrière les vitres, on apercevait la sombre verdure des pots de géranium, et à travers l'une des fenêtres perçait la faible lueur d'une chandelle. La nuit tombait. De la maison même, et haute comme le toit, s'étendait une clôture en planches percée d'une porte bâtarde. La jeune fille s'en approcha et, la trouvant fermée, agita avec impatience le lourd anneau de fer de l'antique serrure. Des pas traînants se firent entendre derrière la clôture, comme ceux d'une personne chaussée de vieilles pantoufles, et une voix de femme, enrouée, fit en allemand une question que le lieutenant ne comprit pas. En vrai marin, il n'entendait que le russe. La jeune fille répondit de même en allemand. La porte s'entrebâilla, laissa passer la jeune fille, et se referma brusquement au nez de Yergunov, qui eut le temps néanmoins de distinguer dans le demi-jour la figure d'une grosse vieille femme en robe rouge, tenant une lanterne à la main. Frappé de surprise, le lieutenant resta quelque temps immobile, mais bientôt indigné à l'idée qu'on osait se permettre une telle impolitesse à l'égard d'un officier, il fit brusquement demi-tour et se dirigea vers son logement. Mais à peine avait-il fait 10 pas que la même porte se rouvrit, et la jeune fille, qui avait eu le temps de chuchoter à l'oreille de la vieille, parut sur le seuil et dit à haute voix « Où allez-vous donc, monsieur l'officier? Est-ce que vous n'entrez pas chez nous ?» Yergunov hésita un moment, puis revint sur ses pas. Sa nouvelle connaissance, que nous allons dorénavant nommer Émilie, l'introduisit d'abord dans une petite pièce humide et sombre, puis dans une chambre assez grande mais très basse de plafond. Une vaste armoire occupait, avec un sofa en toile cirée, l'une des parois. Au-dessus des portes et entre les fenêtres se voyaient les portraits éraillés de deux archevêques coiffés de la mitre et d'un turc en turban. Des coffres, des cartons à chapeau encombraient les coins de la chambre, et, entourés de chaises boiteuses, se dressait une table de jeu ouverte, sur laquelle une casquette d'homme était posée pour un verre de crasse à demi vide. Sur les talons du lieutenant entra la vieille qu'il avait remarquée près de la porte. C'était une juive d'aspect repoussant. Ses petits yeux éraillés jetaient des regards sinistres. Quelques poils gris couvraient sa lèvre épaisse. Émilie la présenta au lieutenant. « Voici, dit-elle, ma petite tante, Madame Fritsche. » Le lieutenant ne put retenir un mouvement de surprise, mais il crut de son devoir de décliner ses noms et qualités. Madame Fritsche ne lui répondit que par un regard oblique et demanda en russe à sa nièce si elle voulait du thé. « Ah oui, du thé !» s'écria Émilie. « N'est-ce pas, monsieur l'officier, vous prendrez du thé ?»« Oui, petite tante, apportez-nous le samovar. » Mais pourquoi restez-vous debout, monsieur, au lieu de vous asseoir? Mon Dieu, vous êtes cérémonieux! Permettez-moi d'ôter mon châle. Émilie, pendant qu'elle parlait, tournait la tête de côté et d'autre et donnait de petites secousses à ses épaules. C'est ainsi que font les oiseaux quand ils sont perchés au faîte d'un arbre et que le soleil les éclaire de tous côtés. Le lieutenant prit une chaise et, donnant à son maintien la gravité nécessaire, il ouvrit la conversation sur l'affaire du vol. Mais Émilie l'interrompit aussitôt. « Oh, ne prenez pas cette peine, dit-elle, ce n'est plus rien. Ma tante vient de m'apprendre que les principaux objets sont retrouvés. » Ici, Madame Fritsche murmura quelques mots dans sa barbe et quitta la chambre. Il n'était pas même besoin d'aller à la police, mais je ne puis jamais me retenir. Vous ne comprenez pas l'allemand, mais je suis si rapide. Regardez-moi. Oh, je n'y pense plus. Plus du tout. Le lieutenant leva les yeux sur Émilie. Son visage, en effet, avait repris l'expression de l'insouciance. Tout souriait dans ce ralenti visage. Tous les yeux, entourés de longs fils cendrés, la bouche, les joues, le menton, jusqu'à la fossette du menton, jusqu'au bout du petit nez retroussé. Elle s'approcha d'un miroir ébréché, et tout en chantonnant, tout en clignant les yeux, elle se mit à rattacher sa chevelure. Yergunov suivait avec attention chacun de ses mouvements, car elle lui plaisait beaucoup. « Vous m'excuserez, n'est-ce pas ?» se reprit-elle à dire en minaudant devant son miroir. « De vous avoir ainsi amené chez moi, cela vous serait-il désagréable ?»« Oh, que dites-vous là ?»« Je vous l'ai déjà dit, je suis si rapide. J'agis d'abord et puis je pense, et souvent même je ne pense pas du tout. Comment vous appelez-vous, monsieur l'officier ? Peut-on le savoir ?» Se disant, elle se plaça résolument devant lui en croisant sur sa poitrine ses bras rondelets. « Je m'appelle Yergunov Kuzma, Vassiliev, » dit le lieutenant. « Yergu, oh, ce nom ne me va pas, il est trop difficile à prononcer. Je vais vous appeler Florestan. » Nous avions à Riga un monsieur Florestan qui vendait de l'excellent gros de Naples, et qui était beau, mais, oh, pas moins que vous, mais quelle belle taille vous avez! Celle d'un véritable héros russe! J'aime les Russes! Oh, je suis russe moi-même! Oui, je suis russe, car mon père était officier. On voulait même lui donner une croix. Mais j'ai les mains plus blanches que les vôtres. » Elle leva ses bras au-dessus de sa tête, agita ses mains pour faire descendre le sang, et les abaissant brusquement. « Voyez, dit-elle, je me lave avec du savon grec parfumé. Sentez un peu. Ah, mais elle n'est pas de baiser. Ce n'est pas pour cela que je vous les montre. Mais où servez-vous? Je sers dans la flotte, au 19e équipage de la mer Noire. Ah, vous êtes marin. Avez-vous un gros traitement? Oh non, pas trop. Vous devez être très brave, je vois ça dans vos yeux. Quels épais sourcils vous avez! On dit qu'il faut les frotter de suif la nuit pour qu'ils poussent. Mais pourquoi n'avez-vous pas de moustache? Ah, le règlement ne le permet pas. Fi, qu'il est bête, votre règlement. Est-ce un couteau que vous avez là? Non, c'est un poignard. Le poignard est le signe distinctif du marin. Ah, un poignard, ça coupe-t-il, voyons un peu. Et, fermant les yeux, se mordant les lèvres, elle tira avec effort la lame du fourreau et s'appliqua le tranchant sur le nez. Mais il était ouéché, votre poignard, dit-elle. Et pourtant, je puis vous tuer d'un seul coup. Elle menaça le lieutenant, qui fit semblant d'avoir peur et partit d'un gros rire. Elle se mit à rire aussi. « Je vous fais grâce, dit-elle en prenant une pose majestueuse. Allons, reprenez votre arme. À propos, quel âge avez-vous ?
25 ans.
Et moi, 19. Dieu, que c'est drôle !»
Émilie se mit alors à rire avec tant d'abandon qu'elle s'en renversa en arrière. Le lieutenant restait immobile sur sa chaise, ne pouvant détourner ses regards de ce visage frais et rose, tout frémissant de l'éclat de rire. Oh, elle lui plaisait de plus en plus. Émilie s'arrêta tout à coup, et après avoir examiné le lieutenant avec attention, comme si elle le voyait pour la première fois, elle se rapprocha du miroir tout en chantonnant entre ses dents. C'était son habitude.
« Savez-vous chanter, monsieur Florestan ?» demanda-t-elle.
« Ah non, mademoiselle, on ne m'a point appris le chant quand j'étais petit. »«
Et jouer de la guitare, pas davantage ? Moi, je sais. J'ai une guitare toute incrustée de nacre de perles. Seulement, les cordes sont cassées. Vous me donnerez bien de quoi les remplacer, monsieur l'officier. » Alors je vous chanterai une belle romance allemande, si touchante. Et savez-vous danser ? Non, oh, c'est impossible. Mais je vous apprendrai l'écossaise et la valse cosaque. Tralala, tralala.
Et Émilie se mit à sauter par la chambre.
Voyez quelle jolie bobine je porte. Elle vient de Varsovie. Mais comment m'appellerez-vous ?
Le lieutenant rougit jusqu'aux oreilles. Mais je vous appellerai l'adorable Émilie.
Non, vous devez m'appeler Mein Zucker Püppchen.
Voyons, répétez après moi. Avec le plus grand plaisir, mais je crains que ce ne soit un peu trop difficile pour ma langue.
Non, c'est égal, dites mein.
Maïm, non, Zucker, Zucker,
Püppchen, Püppchen, Püppchen,
Ah non, non, je ne puis, ça ne peut pas sortir.
Si, si, il faut. Savez-vous ce que cela signifie? C'est en allemand le plus agréable demoiselle, le mot. Je vous l'expliquerai plus tard, car voici la petite tante qui nous apporte le samovar.
Émilie battit des mains.
« Petite tante, je prendrai mon thé avec sel, de la crème. Y en a-t-il ? » ?»«
Tais-toi donc, » dit la tante en allemand d'un air tombourru. Le lieutenant resta chez Madame Fritzsche jusqu'à la nuit. Depuis son arrivée à Nikolaïev, il n'avait pas encore passé de si agréables soirées. À la vérité, il lui vint en tête plus d'une fois qu'il ne convenait guère à un officier, à un gentilhomme, de frayer avec des personnes comme la demoiselle de Riga et sa petite tante. Mais Émilie était si jolie, elle babillait si drôlement, elle le regardait avec des yeux si espiègles, qu'il refoula tous ses scrupules pour vivre cette fois à coups des franches, comme le lui conseillait un pope de ses amis. Une seule circonstance le troubla quelque peu, et lui laissa une impression pénible. Pendant le feu de sa conversation avec Émilie et la tante, La porte de la chambre s'entrebâilla et donna passage à un bras d'homme dans une manche de couleur sombre, portant un assez gros paquet enveloppé dans une serviette. Les deux dames s'en approchèrent avec empressement pour regarder ce qu'il contenait. « Mais ce ne sont pas les mêmes cuillères !» s'écria Émilie. Mais la tante la poussa du coude et se hâta d'emporter le paquet, sans même attacher les bouts de la serviette, sur l'un desquels le lieutenant crut apercevoir une tache rouge, semblable à une tache de sang. « Qu'est-ce ? » demanda-t-il. « Vous a-t-on rapporté quelques autres objets volés ?»«
Oui, » dit Émilie avec une certaine hésitation, « on a rapporté. »
« Qui les a trouvés, votre domestique ?» Émilie fronça le sourcil.
« Quel domestique ? » dit-elle. « Mais nous n'en avons pas. »
« Un homme, donc ?»«
Mais jamais aucun homme ne vient chez nous. »
« Alors, permettez, permettez. J'ai parfaitement reconnu la manche d'une Vergelka. Et puis cette casquette. »«
Mais jamais, jamais aucun homme ne vient chez nous. » répéta Émilie avec insistance. « Qu'avez-vous pu ouvrir ? Ah, vous n'avez rien vu. Cette casquette est à moi. »«
Comment à vous ?
À moi, oui, il m'arrive quelquefois d'aller au bal masqué. En un mot, elle est à moi, cela suffit. »«
Mais alors, qui donc vous a apporté ce paquet ?»
Émilie ne répondit rien et sortit brusquement sur les talons de sa tante. Quelques minutes plus tard, elle rentra seule. Lorsque le lieutenant voulut l'interroger de nouveau, elle le regarda entre les deux yeux, et tandis qu'elle lui disait qu'il était honteux à un cavalier de se montrer si curieux, son visage changea, s'assombrit, et bientôt, tirant de la table un vieux jeu de cartes, elle demanda au lieutenant de lui dire sa bonne aventure sur le roi de cœur.
Yarounov se mit à rire, prit les cartes et toutes les pensées de soupçon qu'il pouvait avoir le quittèrent immédiatement. Mais ces mauvaises pensées lui revinrent encore, et dans le courant de la même soirée, il avait même déjà franchi la petite porte, souvent dans la haie sur la rue, il avait crié pour la dernière fois à Émilie, « Adieu, Zuckerpübchen !» lorsqu'un homme de petite taille le frôla brusquement. Et la lune, qui jetait un vif éclat, lui fit apercevoir un maigre visage de bohémien, avec des moustaches noires, un nez recourbé et des yeux brillants sous d'épais sourcils. Cet homme se jeta prestement derrière l'angle d'une maison. Toutefois, le lieutenant crut reconnaître non pas son visage, qu'il n'avait jamais vu, mais la manche aux trois boutons d'argent de sa redingote à brandebourg. Une sorte d'inquiétude s'éveilla dans l'âme du prudent jeune homme. Rentré à la maison, il n'alluma point, suivant sa constante habitude, sa grande pipe d'écume de mer. Du reste, la rencontre inattendue qu'il avait faite de la charmante Émilie et les heures agréables qu'il venait de passer avec elle pouvaient expliquer l'agitation de ses sentiments.
Quelles que fussent les appréhensions du lieutenant, elles se dissipèrent rapidement sans laisser de traces. Il continua de visiter de plus en plus fréquemment les deux dames de Riga. D'abord, Yergunov alla chez elle en cachette, ayant quelque honte d'une telle intimité. Puis, peu à peu, il préféra ouvertement la demeure de ses nouvelles connaissances à toute autre maison, sans excepter naturellement les tristes quatre murs de sa chambre. Madame Fritzsche n'existait plus, hors lui, une sensation désagréable, bien qu'elle continuât de le traiter d'une façon peu avenante et presque farouche. Les dames de cette espèce apprécient principalement dans leurs visiteurs la générosité, et le lieutenant n'était pas sans quelque avarice. En fait de cadeaux, il donnait plus volontiers des noix, des raisins secs et du pain d'épices. Une fois seulement, il s'était ruiné, suivant sa propre expression. Il avait offert à Émilie un petit fichu en soie rose et de véritables fabriques françaises. Le jour même, elle en brûla les bouts à la chandelle. Il lui fit des reproches. Alors elle attacha le fichu à la queue de sa chatte. Il se fâcha et elle lui rit au nez. Le lieutenant dut enfin s'avouer que non seulement il n'inspirait aucun respect aux dames de Riga, mais qu'il n'avait pas même acquis leur confiance, car on ne laissait jamais entrer d'emblée sans un examen préalable. Souvent on le faisait attendre, d'autres fois on le congédiait sans façon, et pour ne pas le mettre dans des confidences, on parlait allemand devant lui. Émilie ne lui rendait aucun compte de ses actions, et à toutes les questions qu'il pouvait faire, elle trouvait toujours des échappatoires. Mais ce qui l'intriguait le plus, c'était de se voir constamment fermer certaines chambres de la maison de Madame Fritzsche, qui, bien qu'elle eût toutes les apparences d'une cabane, était assez spacieuse. Malgré tout, Yergunov était toujours aussi assidu chez Émilie. Il rencontrait là, comme nous disons, des âmes vivantes, et son amour-propre était secrètement flatté de ce que sa jeune amie, qui continuait à l'appeler Florestan, admira de plus en plus sa mâle beauté et trouva que ses yeux ressemblaient à ceux d'un oiseau de paradis. Un jour, au plus fort de l'été, à midi, le lieutenant, après avoir passé toute sa matinée en plein soleil avec les ouvriers du chantier, se traîna harassé jusqu'à la petite porte de l'huître connue. Il frappa, on ne le fit pas attendre. À peine entré dans ce qu'on nommait le salon, il se laissa tomber sur le sofa. Émilie s'approcha et essuya avec son mouchoir le front baigné de sueur du lieutenant. « Qu'il est fatigué, qu'il a chaud !» dit-elle avec compassion. « Pauvre ami, s'il avait seulement décroché les agrafes de son haut col, ô Seigneur, on va sauter sa petite âme dans sa poitrine. »« Je n'en puis plus, » répondit Yergunov en gémissant. « Debout depuis le matin, ce soleil brûlant sur mon shako. Mais je voulais d'abord me réfugier à la maison, mais ces serpents de fournisseurs m'y attendent. Ici chez vous, oh, quelle fraîcheur! Oh, je crois que si j'osais, je ferais un petit somme.
Eh bien, dors, personne ici ne te gênera.
Mais j'ai conscience.
Mais quelle idée, dors, je vais te bercer.
Et elle se mit à fredonner une berceuse. L'autre dit, oh, si je buvais d'abord un peu d'eau.
Tiens, en voici, fraîche comme du cristal. Attends, je vais te mettre un petit coussin sous la tête. Et encore ceci, contre les mouches.
Elle lui couvrit le visage de son fichu.
Grand merci, mon petit Cupidon, dit l'autre,
et déjà elle s'était endormie. Émilie chantonnait en se balançant comme si elle l'eût bercé, et riait elle-même de son geste et de sa chanson. Au bout d'une heure, Yergunov s'éveilla. Il lui avait semblé, à travers son sommeil, que quelqu'un l'avait touché en se penchant sur lui. Il enleva le fichu qui lui couvrait les yeux. Émilie se tenait à genoux, tout près du sofa, avec une expression de visage qui lui parut étrange. Elle se releva précipitamment et courut vers la fenêtre en cachant quelque chose dans sa poche. Le lieutenant s'étira les membres.
« J'ai pourtant bravement dormi, » dit-il. « Venez un peu vers moi, ma chère demoiselle. »
Émilie se rapprocha. Il se souleva brusquement du sofa, enfonça sa main dans la poche d'Émilie et en tira une paire de petits ciseaux.
« Jésus !» s'écria volontairement Émilie.
« Mais ce sont des ciseaux ?» balbutia le lieutenant.
« Certainement, mais quoi que croyais-tu donc trouver un pistolet ?»« Oh, quelle drôle de figure il a ! Les joues plissées comme un coussin et les cheveux tout droits sur la nuque. Il ne sourit même pas. »
Émilie se tordit de rire.
Assez, assez, dit le lieutenant d'un ton fâché. Si tu ne peux rien trouver de plus spirituel, je m'en vais. Je pars, ajouta-t-il, en voyant qu'elle ne cessait pas de rire, et il prit son shako. Émilie se tut. Fille, qu'il est méchant, dit-elle. Un vrai russe, oh, tous les russes sont méchants. Voilà qu'il s'en va. Fille, hier il m'a promis 5 roubles. Aujourd'hui il m'a rien donné, il s'en va.
Je n'ai point d'argent sur moi, murmura le lieutenant, déjà sur le seuil de la porte. Adieu.
Émilie le suivit des yeux et le menaça du doigt. Entendez-vous ce qu'il dit, il n'a point d'argent. Oh, tous ces Russes sont trompeurs. Mais attendez, attendez, monsieur l'enjôleur. Petite tante, venez ici, j'ai quelque chose à vous confier.
Le soir du même jour, en se déshabillant pour se coucher, le lieutenant s'aperçut que le rebord supérieur de sa ceinture, de cette ceinture qu'il portait toujours sur lui, était décousu de la longueur d'un doigt. En homme d'ordre qu'il était, il prit aussitôt du fil et une aiguille, cira le fil et répara soigneusement la déchirure. Du reste, il ne prêta aucune attention à cette circonstance insignifiante. Toute la journée suivante fut consacrée par le lieutenant au devoir du service. Il ne sortit pas de la maison, même après dîner, et jusqu'à la nuit, à la sueur de son front, il rédigea et copia des rapports à l'autorité, confondant impitoyablement l'accent grave avec l'accent aigu, plaçant chaque fois après « mais » un point d'exclamation et après « cependant » un point et une virgule. Le lendemain matin, un enfant juif, pieds nus et couvert d'une souquenille en loques, lui apporta une lettre d'Émilie, la première qu'il eut reçue d'elle. « Mon très cher Florestan, lui écrivait-elle, es-tu maintenant fâché contre Tadsukerpütschun que tu n'es pas venu hier? De grâce, ne sois pas trop fâché. Si tu ne veux pas que ton aimable pleure beaucoup, beaucoup, et viens ce soir à 5 heures sans faute. » Le chiffre 5 était entouré d'une double petite couronne de fleurs dessinées à la plume. « Ton aimable Émilie. » Le lieutenant s'étonna. Il ne croyait pas son Émilie si savante. Il donna un sou à l'enfant et fit répondre qu'il irait. Yerounov tint parole. 5 heures n'avaient pas encore sonné que déjà il frappait à la porte de Madame Frischtche. Mais à sa grande surprise, Émilie n'était point à la maison. Ce fut la tante qui le reçut et après lui avoir fait, chose étonnante, une révérence préliminaire, elle lui apprit que des circonstances imprévues avaient forcé Émilie à s'absenter, mais qu'elle serait bientôt de retour, et qu'elle le priait de l'attendre. Madame Fritsche s'était coiffée d'un bonnet tout blanc. Elle souriait, elle parlait d'une voix caressante, et s'efforçait évidemment de donner une expression aimable à son visage renfrogné, qui du reste ne gagnait rien à ses efforts, et prenait au contraire je ne sais quelle teinte équivoque et louche. « Prenez place, monsieur, prenez place, » disait-elle en lui avançant d'un fauteuil. « Mais si vous le permettez, nous aurons le plaisir de vous offrir une petite collation. » Madame Fritsche fit une autre révérence, sortit de la chambre et revint bientôt avec une tasse de chocolat sur un plateau de fer blanc. Le chocolat n'était pas de qualité supérieure. Cependant, le lieutenant le but avec plaisir, mais il essayait vainement de comprendre d'où venait le subit empressement de Madame Fritsche et ce que tout cela signifiait. Émilie ne venait point. Il commençait à perdre patience lorsque tout à coup, les sons d'une guitare se firent entendre dans la maison, derrière le mur de la chambre. Ce fut un accord, un second, un troisième, de plus en plus forts et pleins. Le lieutenant fut frappé d'étonnement. Émilie avait bien une guitare, mais cette guitare n'avait que 3 cordes. Il n'avait pas encore trouvé le temps d'acheter les autres. D'ailleurs, Émilie n'était pas à la maison.
D'heureux-chef, un accord résonna si fort cette fois qu'il semblait partir de la chambre même. Le lieutenant tourna sur ses talons et faillit pousser un cri de surprise et d'effroi. Devant lui, sur le seuil d'une petite porte basse qu'il n'avait pas remarquée jusqu'alors, cachée qu'elle était par la lourde armoire, se tenait un être inconnu, étrange. Ni un enfant, ni une jeune fille non plus. Cette créature était vêtue d'une robe blanche, bigarrée de dessins de couleurs, et portait des chaussures rouges à talons. Retenues au sommet du front par un cercle d'or, ses cheveux noirs, épais et lourds, tombaient comme un manteau de sa petite tête sur son corps grêle et fluet. Sous cette masse, deux grands yeux brillaient d'un éclat sombre, et deux bras minces et hâlés, chargés de bracelets d'or, tenaient des deux mains une guitare. À peine pouvait-on apercevoir le visage tant il semblait étroit et obscur. Seulement un nez effilé s'y dessinait en ligne droite au-dessus des lèvres rouges. Le lieutenant resta pétrifié. Il regardait, sans cligner les yeux, cet être bizarre qu'il regardait aussi les yeux fixes et sans prononcer une parole. Il revint pourtant à lui et s'approcha à petits pas. Le visage sombre se mit peu à peu à sourire. Des dents blanches brillèrent tout à coup. La tête se releva et, secouant sa lourde chevelure, se montra dans toute sa beauté fine et acérée.
« Mais quel est ce diable hautain ?»
murmura le lieutenant. Et s'approchant encore davantage, il dit à voix basse. « Petite, petite, qui es-tu ?
Ici,
répondit-elle d'un timbre voilé, avec une prononciation étrange qui transposait l'accent « ici ». Puis elle fit un pas en arrière. Le lieutenant franchit le seuil après elle et se trouva dans une très petite chambre, sans aucune fenêtre, dont les murs et le plancher étaient recouverts d'épais tapis en poils de chameau. Une forte odeur de musc le prit à la gorge. Deux fines bougies en cire jaune brûlaient sur une table ronde devant un sofa très bas à la turque. Un très petit lit se voyait dans un coin, caché sous des rideaux en mousseline orientale à rayures de satin, et un chapelet d'ambre terminé par un gland de soie rouge était suspendu à la tête du lit.
« Mais permettez, qui êtes-vous enfin ?» répéta le lieutenant.
« Sœur, sœur d'Émilie. »«
Ah, vous êtes sa sœur ? Vous demeurez ici ?»«
Oui. »
Le lieutenant étendit de nouveau la main vers elle et de nouveau elle recula.
« Mais comment se fait-il donc qu'elle ne m'ait jamais parlé de vous ? Vous cacheriez-vous ? »
L'autre dit oui d'un signe de tête.
« Vraiment, mais vous avez des raisons pour vous cacher. Voilà donc pourquoi je ne vous ai jamais aperçu. J'avoue que je ne soupçonnais même pas votre existence. Quoi, cette grosse vieille Madame Frichet, votre tante ?
Oui.
On dirait que vous ne comprenez pas très bien le russe. Comment vous appelle-t-on ?
Colibri.
Hein ?
Colibri.
Colibri. Voilà un nom extraordinaire. N'est-ce pas, il y en Afrique, des insectes qui se nomment ainsi ?
Colibri se mit à rire d'un rire court et bizarre, comme si des vers s'entrechoquaient dans son gosier. Elle secoua gravement la tête, jeta un rapide coup d'œil autour d'elle, et, posant la guitare, elle s'approcha de la porte en un saut et la ferma brusquement. Chacun de ses mouvements était preste, agile, avec le frôlement sec d'un lézard. Ses cheveux lui tombaient plus bas que les jarrets.
« Mais pourquoi fermez-vous la porte ?» lui demanda le lieutenant.
Colibri posa un doigt sur ses lèvres.
« Pour Émilie !»
Le lieutenant eut un sourire de fatuité. « Oh, seriez-vous jalouse ?»«
Quoi ?»
dit Colibri en levant la tête et en prenant, comme à chaque question qu'elle faisait, une expression enfantine.
« Oui, jalouse. Fâchée.
Oh oui !»
Mais c'est beaucoup d'honneur que vous me faites. Écoutez, quel âge avez-vous?
17.
17 ans, vous voulez dire?
Oui.
Le lieutenant parcourut d'un nouveau regard plus scrutateur sa bizarre compagne. Mais vous êtes une vraie petite merveille de beauté. Quels cheveux, quels yeux, et ces sourcils, oh, oh. Colibri se mit à rire encore et fit lentement rouler ses yeux magnifiques.
Oui, je suis une beauté, dit-elle, avec une gravité étrange. Asseyez-vous, moi près de vous. Tenez une fleur, belle fleur, qui sent bon.
Elle tira de sa ceinture une branche de lilas blanc et regarda le lieutenant par-dessus les fleurs dont elle mordillait un pétale.
« Tenez, voulez-vous des confitures de Constantinopoli, chère bête ?»
Colibri se leva rapidement, s'approcha d'une commode, l'ouvrit et en tira un petit pot doré enveloppé dans un morceau d'étoffe rouge parsemé de paillettes en acier, puis une cuillère en vermeil, une carafe en cristal à facettes remplie d'eau et un verre pareil.
« Prenez du sherbet, signore, bien bon, et je chanterai, voulez-vous ?»
Elle saisit la guitare. « Vous chantez ?» demanda le lieutenant en se mettant dans la bouche une cuillerée de ce sherbet qui était excellent en effet. Colibri saisit des deux mains son épaisse chevelure, la rejeta en arrière, pencha la tête de côté et pinça quelques accords en regardant avec attention le bout de ses doigts et le manche de sa guitare. Puis elle se mit à chanter d'une voix agréable et plus forte qu'on ne pouvait l'attendre d'un être si frêle, mais qui parut bizarre au lieutenant.
« Comme elle miaule, la petite chatte !» se dit-il en lui-même.
Elle chantait d'une chanson mélancolique. Ce n'était ni du russe ni de l'allemand, c'était une langue absolument inconnue à Yergunov. Des sons gutturaux, étranges, se mêlaient fréquemment à son chant, et pour terminer, elle prononça lentement le mot « sinzinar »,« sintamar » ou quelque chose d'approchant. Ensuite, elle appuya sa tête sur sa main, poussa un soupir et posa la guitare sur ses genoux.
« Eh bien, demanda-t-elle, voulez-vous encore ?»«
Ah, avec plaisir, répondit le lieutenant. Mais pourquoi toujours le visage si triste? Prenez un peu de sherbet. »
« Non, mangez-vous. Cette fois, ce sera plus gai. »
Alors elle chanta une autre chansonnette, à la façon d'un air de danse, mais dans la même langue, incompréhensible et avec les mêmes sons de gorge. Ses doigts basanés couraient sur les cordes comme de vraies petites araignées, et elle finit en jetant un grand cri sur le mot « assa » et en frappant un coup violent et répété avec son petit poing sur la table. Ses yeux brillaient d'un éclat sauvage. Le lieutenant était, comme nous disions, embrouillardé. La tête lui tournait. Tout était si nouveau pour lui. Cette odeur de musc, ces chants bizarres, ces bougies en plein jour, ce sherbet à la vanille, et puis cette colibri qui s'approchait de lui plus près, ses cheveux qui luisaient et bruissaient comme la soie, et ce visage toujours triste. « Mais c'est une roussalka !» se dit-il, éprouvant un malaise singulier. « Ma petite âme, avouez, qui vous a donné l'envie de m'appeler aujourd'hui ?»«
Vous êtes jeune, joli garçon, j'aime cela. »«
Ha ha ! Mais que dira Émilie ? Elle va venir, elle m'a écrit ce matin. »«
Oh, rien à Émilie, elle me tuerait !»
Le lieutenant partit d'un éclat de rire. « La croyez-vous si méchante ?» Colibri hocha la tête.
« Il n'y a que les méchants qui tuent. Rien non plus à Madame Fritchet. »
Elle lui frappa plusieurs fois le front du bout du doigt.
« Comprenez-vous, officier ?»
Le lieutenant fronça le sourcil. « Bon, bon, je garderai ton secret, mais en récompense, tu me donneras un baiser. »
« Oh non, après, quand tu partiras. »«
Tout de suite !» Il se pencha vers elle.
mais elle recula lentement, se redressa et se raidit comme une couleuvre sur laquelle on a marché dans l'herbe épaisse d'un bois. Le lieutenant la regarda dans le blanc des yeux. « Est-elle méchante ? » dit-il. « Allez, à ton aise et que Dieu te bénisse !» Colibri se mit à rêver un instant et elle se décidait à se rapprocher du lieutenant lorsque trois coups sourds retentirent dans la maison. Colibri se leva brusquement avec un rire forcé.
« Aujourd'hui, non, mais demain, oui. Viens demain. »«
À quelle heure ?»«
Le soir, à 7 heures. »«
C'est bien, mais demain, tu me diras pourquoi tu t'es si longtemps caché de moi. »
« Oui, oui, demain la fin, mon officier. »«
Alors, tiens ta parole et je t'apporterai un joli petit cadeau. »«
Non, jamais !» fit-elle en frappant du pied. « Cela,
montrant ses habits, ses bijoux, tout ce qui l'entourait,
« cela, à moi, des cadeaux, jamais !»«
Ne vous fâchez pas, mademoiselle, je ne force personne. »« Il faut donc partir, bien adieu, mon petit joujou. » Et le baiser ? Colibri bondit légèrement et, jetant ses deux bras autour du cou du jeune lieutenant, elle lui donna un baiser qui fit à Yavloukov l'effet d'un coup de bec. Il voulut l'embrasser à son tour, mais elle s'échappa vivement et s'abrita derrière le petit sofa. « Ainsi donc à 7 heures demain, » dit le lieutenant un peu confus. Elle lui répondit par un signe de tête. Et prenant du bout des doigts une de ses longues tresses de cheveux, elle se mit à les mordiller de ses dents aiguës. Le lieutenant lui fit de la main un geste d'adieu et tira la porte sur lui. Il entendit Colibri s'en approcher en courant et la fermer à double tour. Il n'y avait personne dans le salon de Madame Fritzsche. Le lieutenant, qui ne se souciait pas de rencontrer Émilie, se hâtait de sortir. Mais en arrivant au perron, il vint se heurter contre la maîtresse du logis.
« Vous partez, monsieur le lieutenant, » dit celle-ci avec la même grimace affectée et sinistre. « Vous n'attendrez pas Émilie ?»
Le lieutenant mit son shako. « Oh non, je dois, madame, vous faire savoir que je n'ai pas l'habitude d'attendre. Il est fort probable que je ne viendrai pas demain non plus. Informez-en votre nièce. »«
Bien, bien, » dit l'autre. « Mais vous ne vous êtes pas ennuyé, monsieur le lieutenant. »«
Non, non, madame, je ne me suis point ennuyé. »«
C'est tout ce que nous voulions savoir. Nous vous présentons nos hommages. »«
Je vous salue, madame. » Le lieutenant rentra chez lui et, se jetant sur son lit, s'enfonça dans un dédale de réflexion. « Mais que diable est cela ? » s'écria-t-il plus d'une fois à voix haute. « Mais pourquoi Émilie m'a-t-elle écrit ? Elle me donne un rendez-vous et n'y vient pas. » Il prit la lettre d'Émilie, la tourna dans ses mains, la flaira. Elle sentait le tabac fumé, et dans un endroit où on l'avait remplacé un verbe masculin par la terminaison féminine. De cela que pouvait-on conclure ? Mais est-il possible que cette vieille juive que Dieu confonde ne sache rien ? « Elle surtout, mais qui est-elle ?» La charmante Colibri ne lui sortait pas de la tête. Il attendait impatiemment la soirée du lendemain, bien que, dans le fond de son âme, il eût presque peur de ce petit joujou.